Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour l'émission Dans nos communautés. Je suis aujourd'hui avec la présidente de l'Amitié judéo-chrétienne, Elisabeth Vernet. Bonjour Elisabeth Vernet.
Bonjour Christiane.
Merci d'être avec moi pour cette émission où nous allons parler ou reparler un peu de l'amitié judéo-chrétienne. Pour que vous nous la présentiez à nouveau, je précise que nous avions fait une émission sur ce sujet il y a quelques années, que les auditeurs et auditrices peuvent aller fouiner dans mes archives dans nos communautés s'ils veulent la réécouter. Et voilà. Donc là, on va présenter l'amitié judéo-chrétienne d'une manière générale et celle de Nîmes. Donc je vous laisse la parole, Elisabeth Vernet.
Eh bien merci, vous dire que l'Amitié judéo-chrétienne de France est une association loi 1901, fondée le 26 février 1948. Par Jules Isaac, historien, et Edmond Flegg, poète. L'Amitié judéo-chrétienne de Nîmes existe, elle, depuis 1949 et constitue l'un des 40 groupes locaux. Cette Amitié judéo-chrétienne de France est elle-même affiliée depuis les entretiens de Sillisberg au Conseil international des chrétiens et des juifs, né en 1947, lors de la conférence en Suisse. Un peu d'histoire d'abord, et c'est important.
Oui.
Jules Isaac est mort en 1963. Il est auteur de célèbres manuels où nous avons appris, vous et moi, Christiane, les livres d'histoire Malé et Isaac. Il est né à Rennes d'une famille de juifs lorrains, militaire dans l'armée française de père en fils, et comme on en entend souvent parler avec Dreyfus et ceux qui s'en suivent, largement assimilé, faisant partie de la culture française, républicain. À 20 ans, il rencontre et devient ami avec Charles Péguy, catholique, qui lui révèle l'injustice du procès Dreyfus. Et le voilà embarqué, à cause de sa passion pour la vérité et la justice, il devient lui aussi Dreyfusard. Agrégé d'histoire en 1902, il travaille à son livre d'histoire, le fameux dont on a parlé, et puis il s'efforce de tirer les conséquences du premier conflit, la guerre de 14-18, où il a perdu son ami Malé d'ailleurs. Fidèle à la tradition républicaine de la gauche, il est membre de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, et puis du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Il s'engage parallèlement en faveur d'un rapprochement entre la France et l'Allemagne. Et en 1936 à 59 ans, il est nommé inspecteur général de l'instruction publique. Mais voici que patatras, 4 ans plus tard, 1940. Il est tout d'abord révoqué en vertu du statut discriminatoire des Juifs par le gouvernement de Vichy. Chassé d'université, déchu de ses droits civiques, réduit à l'état de paria, le choc est pour lui inconcevable, brutal. Et c'est là qu'il prend conscience qu'il est juif malgré lui, figurez-vous. Et il dit face aux persécuteurs, j'acceptais pleinement d'en être, il fallait donc accepter aussi un nouveau combat, passer au crible les griefs iniques dont on prétendait nous accabler, nous les Juifs. Il se réfugie en zone libre avec sa famille en 1941 et là, il rentre en résistance, il écrit des pamphlets pour défendre la démocratie bafouée. Et c'est là qu'en 1942, il est ébloui par la première lecture qu'il fait des évangiles, où il découvre à sa grande stupéfaction que l'enseignement traditionnel de l'Église a trahi les évangiles. Or, c'est cet enseignement qu'il qualifiera de mépris, qui est pour lui à la source de l'antisémitisme chrétien. C'est cela qu'on appelle l'antijudaïsme, qui a préparé et conduit à ce qui est en train de se passer en Europe, qui va aboutir à la Shoah. On est en 41. Pour lui, il faut revenir au texte, à la vérité historique et de celle de Jésus, et réparer le christianisme là où il a failli en condamnant Israël depuis presque 2000 ans. Alors il commence la rédaction de son livre « Jésus et Israël », qui va paraître en 48. Et alors là, en relisant mes notes, figurez-vous que je découvre que c'est aussi un 7 octobre 1943 que Gilles Isaac revient chez le coiffeur. Et là, il apprend que la Gestapo vient de rafler toute sa famille. Seul son fils s'échappera par la fenêtre. Sa fille, sa femme, son gendre mourront en déportation. De Drancy, sa femme lui écrit, ce qui relancera et orientera sa vie dans les 20 années qui lui restent à vivre. Et là, je vais le dire, parce que la place des femmes est capitale. Elles sont toujours derrière. Mon ami, mon bien-aimé, nous partons demain et c'est très dur et la plus grande souffrance est de ne rien savoir de toi depuis l'affreux jour de la séparation. Mon ami, garde-toi pour nous, aie confiance et finis ton œuvre que le monde attend. Le monde ? Mais quelle prétention, n'est-ce pas ? Que va-t-il donc faire ce petit bonhomme-là ? Parce que quand on le regarde, c'est un petit mégroulé, hein. Alors il va faire trois choses très importantes.
Oui.
Il va continuer à écrire des livres pour montrer historiquement la responsabilité chrétienne dans le travail de fond qui a permis à l'antisémitisme nazi de s'épanouir en France et en Europe au XXe siècle. Ensuite, il va rencontrer du monde. Et puis, il y a des gens qui vont venir avec lui. Ce fameux Sigisberg. Mais c'est qui, Sigisberg, en Suisse ? Août 47, 70 chrétiens, protestants, catholiques, juifs de 19 pays qui constituent la base des 10 points de Sigisberg, dont le but sera de transformer l'enseignement chrétien du mépris vis-à-vis du judaïsme en enseignement de l'estime et du respect. Et ça, il va le prendre sous son bras et il va aller le porter sous un truc pas préparé du tout. Il va rencontrer Pie XII en 49. Par hasard, il adore la peinture, il est à Rome et il voit qu'il y a un entretien avec Pie XII. Il y va. Il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux réviser la prière du Vendredi Saint au Remus pro perfidis Judeis ? Et puis, il va rencontrer Jean XXIII. En 1960, et il lui demande d'ouvrir le Concile de Vatican II au problème des relations entre juifs et chrétiens. Promesse qui sera réalisée 2 ans plus tard, et il ne verra pas cela. Et c'est la déclaration de Nostra Aetate le 28 octobre 1965. Et il a tout juste 60 ans cette année, il ne le connaîtra pas. Il est mort, il a semé, et vous allez voir quoi, c'est pas du grand n'importe quoi. Parce qu'il va être un des fondateurs du troisième pôle de l'Amitié Jésus-Chrétienne de France en 48 à Aix et à Paris. Et c'est là qu'il conçoit le remède le plus efficace à la vieille haine antisémite. Ce qui a été semé par l'enseignement, c'est par l'enseignement qu'il faut l'extirper. Et l'idée essentielle était de mettre en valeur les racines profondément juives du premier christianisme pour que judaïsme et christianisme puissent à nouveau se rencontrer sur une base saine et solide. Alors je vais citer maintenant Édouard Roberecht, que nous invitons très souvent au niveau de l'amitié judo-chrétienne, qui est un philosophe qui enseigne la pensée juive à l'université d'Aix-Marseille. Et voici ce qu'il écrit. « La Shoah n'aura pas été possible sans l'enseignement du mépris distillé pendant près de 2000 ans par l'Église au cœur même et sous le couvert de son message d'amour. » Excusez-moi, je vais être violente. Ce sont les propos de Édouard Roberecht. Il faut analyser ce qui s'est passé. Et ensuite, Jules Isaac a cherché à montrer que le christianisme est né du judaïsme et n'aurait jamais pu se constituer sans lui. Il fut un fait juif avant d'être un fait chrétien. Et la persécution des juifs par les chrétiens s'avère être ainsi un des malentendus les plus terrifiants de l'histoire qui demande et exige réparation. Et puis il y a eu le 28 octobre 65, Nostra Aetate, déclaration entre l'Église et les Juifs. Et Jacqueline Cuche va dire, elle est présidente de l'Amitié judo-chrétienne de France à cette époque, cette dame que nous allons inviter bientôt, nous l'invitons le 6 novembre prochain, elle fait remarquer que c'est le dialogue entre Juifs et chrétiens qui a permis que soient pris en compte les dialogues entre les autres religions de l'Église catholique, comme si le rapport aux Juifs était premier et la source de tout. Alors l'Amitié judo-chrétienne de France va donner cette année son prix à un homme qui s'appelle le frère Jean-Marie Coudray, Parce que cette amitié récompense des hommes et des femmes qui sont engagés dans le dialogue. Et voici que l'Église, et par là l'ensemble des chrétiens, reconnaît aujourd'hui que Jésus était juif, comme Marie d'ailleurs. Les apôtres, les premiers chrétiens, qu'il existe un grand patrimoine spirituel commun qu'elle partage avec le peuple juif, qu'elle condamne aujourd'hui l'accusation de déicide, la théologie de la substitution, et qu'elle ne se présente plus comme le nouvel Israël, et qu'elle reconnaît la permanence de la première alliance. Mais ces avancées sont surtout le fait des responsables. On ne peut pas en dire autant de l'ensemble du peuple chrétien. Comment nous informer, comment diffuser tout cela? Alors il y a eu d'énormes travaux, aussi bien du côté juif que chrétien, que catholique, que protestant. Et en novembre 2015, tant d'attentats terroristes majeurs pendant toute l'année, Chaim Korsia, le grand rabbin de France, dira: le temps d'une fraternité héritée du don de la Torah n'est-il pas arrivé dans ce monde moderne? Nous sommes passés de l'enseignement du mépris à celui de l'estime. Il faut maintenant passer à la co-responsabilité et affronter ensemble les défis du monde. Et là, je vous squeeze 70 ans de travail d'un côté et de l'autre avec des tiraillements majeurs. Et ces petits groupes apprennent à étudier ensemble autour des textes, souvent le Premier Testament. Il s'agit de la découverte par les chrétiens des trésors spirituels cachés dans le judaïsme, surtout dans le domaine de l'interprétation des Écritures. On en revient à relire le texte en hébreu pour la Torah et en grec pour les évangiles. Mais qu'est-ce qu'il a été écrit et comment ça s'interprète? Reste encore des défis à travailler, tels que des sujets que Madame Cuche a élaboré quand elle est venue ici pour les 70 ans de l'amitié judéo-chrétienne de France. Elle était alors présidente. Et voici qu'il faut qu'on se pose des questions sur l'élection d'Israël, sur le particularisme et l'universalisme, sur l'attachement du peuple juif à sa terre, sur la loi, sur la foi et sur le nom à Jésus, le Christ des Juifs. Ça, c'est qu'un tout petit exemple, donc, des choses qui sont travaillées. Voyez, voilà.
Avant de parler de Bernard Lazare, j'aimerais que vous nous proposiez la musique, faire une petite pause de musique pour que nous soyons aussi transportés par la musique que vous avez choisie. Dites-nous ce que vous avez choisi.
Alors j'ai choisi la 4e symphonie de Gustav Mahler, le 3e mouvement, et les premières minutes sont un délice pour l'âme.
Voilà.
Et j'y mettrai en parallèle, je vous inviterai à la relecture des psaumes 81 à 84 qui viennent nous interpeller très profondément.
Merci beaucoup. Donc nous allons l'écouter et puis nous revenons juste après pour continuer notre émission ensemble.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2. Nous sommes avec Elisabeth Vernet, présidente de l'Amitié judéo-chrétienne de Nîmes. Et elle nous a présenté l'amitié judéo-chrétienne d'une manière historique, et puis les fondements, ce qui est important pour créer du lien entre juifs et chrétiens. Et donc, nous allons continuer notre dialogue avec l'explication de cet hommage à Bernard Lazare, qui est peut-être pas très connu, même si sur Radio Alliance Plus, il y a eu des émissions qui ont été faites par Jean et Daniel Fleury au sujet de Bernard Lazare. Donc si vous allez aussi fouiner encore sur Radio Alliance Plus, vous les trouverez. Mais je vous laisse la parole une nouvelle fois, Elisabeth Vernet, sur cet homme aussi particulier qui est... Alors vous faites... mis à l'honneur.
Oui, vous faites bien de le dire, parce que moi je l'ai découvert aussi. Je suis née à Nîmes, mais je ne suis pas originaire de Nîmes, au sens familial, je dirais, voilà. Et donc, je l'ai découvert. Alors, je voudrais pointer deux objectifs très capitaux de l'amitié judéo-chrétienne de France. Substituer entre judaïsme et christianisme la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié aux malentendus séculaires et aux traditions d'hostilité. Enrichir notre compréhension du christianisme et du judaïsme, seule condition d'un dialogue authentique et fraternel. Combattre l'antisémitisme, le racisme et toute haine des autres cultures et religions. Et réfléchir à ce que judaïsme et christianisme renouvelés par cette rencontre peuvent apporter aujourd'hui. Dans le respect profond de chaque tradition. Alors effectivement, notre programme cette année devait débuter par l'inauguration et la réinstallation du monument en hommage à Bernard Lazare. L'Amitié judéo-chrétienne de Nîmes et de France ont choisi d'apporter leur soutien à ce magnifique projet porté par le collectif Histoire et Mémoire et son président David Storper. Il raconte à travers les émissions que vous avez largement entendues sur la ville, cette histoire méconnue de Bernard Lazare, qui est un homme qui a constitué tout le dossier, qu'il a transmis à Émile Zola et qui a permis à Émile Zola de défendre Dreyfus. Et on trouve dans les textes de Bernard Lazare de très nombreuses fois « j'accuse, j'accuse, j'accuse ». Et ce collectif a voulu en fait réhabiliter un monument qui a été carrément enlevé en 1942 pendant la période vichiste. Et il nous raconte l'histoire de ce monument. Et l'Amitié judéo-chrétienne a participé avec son historienne Catherine Poujol à raconter l'histoire des trois statues qu'il y a dans ce jardin, un protestant, un catholique et un juif. Et donc, si vous voulez, par rapport au dialogue qui fait que les hommes ont des langages très différents, pensent très différemment, les juifs nous racontent que s'il y a trois juifs quelque part, il doit bien y avoir au moins quatre façons de penser. Donc, si vous voulez, nous avons, pour soutenir cette association, décidé de travailler avec eux et nous allions commencer l'année en inaugurant ce monument qui s'était prévu les 4 et 5 octobre de cette année.
D'accord.
Et pour des raisons internes que nous ignorons, il y a un report et il se trouve que ça aura peut-être lieu le 17 décembre. Donc, nous ne manquerons pas de le faire savoir, à côté, bien sûr, du collectif Histoire et Mémoire. Et ils ont un magnifique site internet qui présente tout ce travail et ce monument, qui est plus qu'une statue, parce qu'il y a l'effigie de la liberté, et le buste de Bernard Lazare au-dessus. Ce n'est pas la statue d'un homme debout, vous voyez ?
C'est tout à fait différent. Très bien.
Ouais. Voilà. Voilà.
Très bien. Donc voilà, parce que certains en ont certainement entendu parler déjà de Bernard Lazare au travers de conversations ou de par rapport à cette inauguration qui devait se faire. Voilà. Donc c'est bien de mettre en avant cette personne qui a pris des initiatives importantes pour à ce moment-là. Et donc, peut-être maintenant, nous allons parler du programme et de l'amitié judéo-chrétienne. C'est un programme, je dirais, un peu habituel, dans le sens où c'est Édouard Obrecht qui revient. Vous pouvez nous dire qui c'est, Édouard Obrecht?
Édouard Obrecht, et il est maître de conférence en philosophie juive à l'université d'Aix-Marseille.
D'accord. Et ça fait plusieurs années qu'il vient pour animer et donner des cours, carrément.
C'est carrément un enseignement.
Au Mas des Abeilles, anime.
Alors, pas qu'au Mas des Abeilles, parce que l'amitié judéo-chrétienne se déplace et va aussi bien donc, dans les espaces de la communauté juive, de la communauté catholique et de la communauté protestante.
Voilà.
Donc on se déplace. Par contre, Édouard Obrecht, je pense, intervient. En fait, nous l'avons découvert à Davar avec l'ancienne présidente de l'amitié, qui était Marie Zrinato, à qui je rends hommage, et dont j'ai pris le relais en 2014. Et donc, nous avons découvert Édouard Obrecht à Davar. C'est une association créée par Armand Abécassis et deux femmes catholiques qui étudiaient les textes hébreux et qui ont vu passer cet homme en lui disant « Vous pouvez pas nous dire un petit peu ce qu'il a dit, comment ça se dit et qu'est-ce que c'est cet hébreu-là ? On n'y comprend rien. » Armand Abécassis est un philosophe aussi éminemment connu et qui a été un de mes maîtres. Par rapport à un enseignement que j'ai reçu de lui ici, grâce à une autre association qu'il a invitée, qui s'appelle Passerelle et Claire Tarragano, pour enseigner la pensée juive. C'est un philosophe qui est érudit et qui est spécialiste des cultures du pourtour méditerranéen et qui, en même temps, connaît immensément les textes hébreux, le Talmud, la Kabbale, et qui est capable de faire des ponts. Voilà. Et donc, c'est avec une conférence à Davar où nous allons rencontrer Armand Abécassis que nous découvrons Édouard Obrecht. Et depuis, il est enseignant ici. Il habitait Aix.
D'accord. Alors, c'est bien que vous m'ayez rappelé le fait qu'il n'y a pas que au Mas des Abeilles. Moi, je suis dans mon côté protestant, et que c'est aussi dans d'autres endroits. Et justement, ça fait le lien entre nous, je dirais. Voilà. Donc, on va pas détailler tout, mais on va dire ce qu'il propose pour cette année. Oui, 2025-2026, oui. Qui est déjà un peu vers la fin, qui arrive vers la fin, disons, de 2025.
Alors, en fait, le programme cette année va se concentrer sur la suite d'un cycle qu'on a débuté avec Noé, en parlant de l'Alliance, et qu'on a poursuivi avec Abraham. Et là, on rentrait dans la naissance de Ésaü et Jacob. Et donc, cette année, nous n'allons pas étudier la Kabbale, parce que l'année dernière, et ça faisait quelques années, que nous avions un cycle Kabbale et un cycle étude de la Genèse. D'accord. Et cette année, nous allons donc, pour 6 séances, nous occuper de la lecture, donc de l'histoire qui se poursuit avec les fils d'Abraham, en fait. Donc, Ésaü et Jacob, deux nations au sein de la matrice d'Israël, c'est ce que nous avons traité donc, le 16 octobre dernier. Et le 11 décembre, Édouard reviendra pour Jacob et Ésaü, le droit d'aînesse contre une soupe, voyez. Et ainsi, nous avons plusieurs dates jusqu'à l'année prochaine, deuxième semestre.
Donc ça se poursuivra dans l'année 2026,
c'est ça, oui.
Avec donc Ésaü, Isaac, voilà. Donc on va pas détailler maintenant, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler d'une conférence sur laquelle je voudrais que vous nous donniez quelques indications, puisqu'elle est très prochainement mise en organisée par l'amitié judéo-chrétienne et par d'autres personnes en lien avec d'autres associations et par l'Église catholique aussi, puisque le titre de cette conférence va être « Témoigner pour les Juifs, une parole catholique ». Et donc ça va être Jacqueline Kuch, que vous nous avez nommée tout à l'heure, qui va parler à partir d'un livre qu'elle a écrit. Voilà, donc je vous laisse présenter cette conférence, et puis nous serons obligés de terminer là notre émission après cette présentation.
Oui, alors en fait, l'Amitié juive chrétienne a cherché à ouvrir et à élargir ce dialogue, et notamment aux jeunes générations, c'est notre préoccupation. Et nous avons sollicité un partenariat auprès des instances et associations juives, chrétiennes et interreligieuses de la région limoise. À l'occasion de la venue à Nîmes de Madame Jacqueline Cuche pour la présentation de son livre, effectivement, Témoigner pour les Juifs, une parole catholique, livre préfacé par le grand rabbin de France, Raïm Korsia. Elle va aborder en particulier pour nous deux thématiques. Dialoguer avec les Juifs, c'est bien plus que combattre l'antisémitisme. Et le nom des Juifs à Jésus le Christ se révèle-t-il être d'une fécondité inattendue ? Alors Raïm Korsia, dans sa préface, rejoint Madame Cuche quand elle évoque en quoi la réconciliation entre Jacob et Ésaü peut être une préfiguration de l'amitié renouvelée entre Juifs et chrétiens. Le hasard fait parfois bien les choses parce qu'il a mis son nez dans l'agencement de notre programme, puisque Édouard Obrecht va nous dérouler ça. Ce sont des hommes paradigmatiques, et c'est en ça que c'est interrogant pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Madame Jacqueline Cuche est titulaire d'une maîtrise de lettres et d'une maîtrise de théologie et a travaillé dans l'enseignement. Elle est présidente de la fondation de l'association Charles Péguy, a été présidente de l'Amitié juive chrétienne de France de 2014 à 2020 et elle est déléguée du diocèse de Strasbourg au SNRJ. Alors nous remercions tous ceux qui ont participé et qui ont voulu participer à ce programme, et nous voulons en particulier remercier l'espace culturel Grombard, le diocèse et le Cédif de Nîmes, le Centre de réflexion et d'études chrétiennes, le Comité interreligieux nîmois, l'Association protestante et Nîmes, la librairie Certitude et le lycée Saint-Vincent de Paul, qui va nous ouvrir les portes, puisque c'est à l'auditorium que nous aurons cette conférence le 6 novembre au soir.
Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth Vernet, présidente de l'Amitié judéo-chrétienne. Bonne suite à l'Amitié judéo-chrétienne, parce qu'il y a vraiment un travail énorme qui a été fait et qui est encore en cours et qui va continuer. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.